J'ai annoncé cela comme cela. Et puis le QH a trouvé que ça ne faisait pas très joli comme titre. Et j'ai découvert en recevant le programme que je faisais aujourd'hui, mercredi 17 juin à 20h, une conférence sur judaïsme pensé ou judaïsme vécu. Alors j'ai commencé à m'arracher les cheveux en me demandant qu'est-ce que je vais dire. Et puis en réfléchissant, je me suis rendu compte que le sujet que je devais traiter avec vous est une illustration directe du titre qui a été imprimé ici, et j'espère en faire la démonstration. Voilà. Donc on va ramasser les deux titres et parler sur les deux registres en même temps, celui de la question qui est posée, judaïsme pensé ou judaïsme vécu. J'aurais tendance à vous répondre, les deux, mon capitaine. Hein. Et nous allons voir cela à propos de l'étude de l'ensemble des fêtes de l'année juive, avec comme point de chute, en essayant de ne pas se faire mal, la fête de Sukkot, qui a lieu cette année en octobre. Voilà. Le temps n'est pas propice. Alors, à propos de judaïsme pensé et judaïsme vécu, il faut qu'il y ait une chose de très claire, c'est que le but de l'étude, le but essentiel de l'étude, c'est de déboucher sur l'action. Il s'agit du faire. Et d'une manière générale, il en va ainsi. Il y a par exemple une question qui est posée à propos du moment où Moshé sort très en colère de chez le Pharaon, qu'il a convoqué au milieu de la nuit pendant la dernière plaie, la mort des premiers-nés, en lui disant « Je ne veux plus vous voir ici décarpissé. » Et Moshé a répondu « Eh bien, il en sera comme tu as dit, tu ne nous verras plus. » Et ils sont partis le lendemain. Et le texte nous dit pourquoi la question qui nous est posée, c'est pourquoi le texte dit que Moshé est sorti très en colère, puisqu'on ne voit pas en quoi sa colère s'est exprimée. Et une colère, c'est fait pour s'exprimer. Une colère rentrée, dont rien ne sort, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi on joue? C'est pas de la colère, ça. C'est pas valable. Ça, c'est quelque chose pour tous les psys de la création, pour les aider dans leur entreprise. Alors, il y a une réponse à cette question. Pourquoi est-ce que... il y a encore une chaise. Ça va. C'est que la colère de Moshé, ça consistait à dire, et c'est pas une colère uniquement rentrée, et dont personne ne pouvait se douter, parce qu'il a dit, il en sera comme tu as dit. Et il est sorti en claquant la porte du palais de Pharaon. C'est moi qui l'ajoute, mais ça va de soi quand on lit le texte. C'est bien évident. Même si ce n'est que moralement, il est sorti en claquant la porte. Donc, là aussi, nous voyons déjà qu'à ce niveau-là, il nous est enseigné que les choses que nous pensons doivent déboucher sur des actes. Ou alors, il y a quelque chose qui tombe par rond quelque part. Ou bien, on va se rendre malade et il faudra affaire au médecin. Ou bien, malade physiquement. Ou bien, on va se rendre malade psychiquement et il faudra avoir affaire au psychiatre. Ce qui ne vaut pas mieux dans un cas que dans l'autre. Et nous voyons que Dieu lui-même a lancé sa création sur cette piste, puisque je vous renvoie au début du chapitre 2 de Bereshit, de la Genèse, où on voit les dispositions que Dieu a prises pour se mettre lui-même en Shabbat, et ça se termine comme ça, il a béni le monde, Asher bara Elohim la'asot, qu'avait créé Dieu pour faire. Mais puisqu'il se met en Shabbat, c'est-à-dire en interruption d'ouvrage, d'intervention transformatrice de la création, alors qui est le sujet de l'Arasot pour faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui, il vient de se mettre en Shabbat, c'est-à-dire de décider de s'arrêter de faire. Alors qui est le sujet de ce pour faire? Qui ça? Nous-mêmes. C'est l'homme. C'est nous. Il nous a passé la main, en quelque sorte. Pour faire. Nous avons une phrase. Je dois vous dire que j'ai une journée un peu enragée. Je voulais chercher à retrouver exactement où elle est dans le livre de prière. J'y suis pas arrivée, j'ai pas eu le temps. Et où nous demandons à Dieu d'être capable d'étudier la Torah, l'ilmod ou l'amed, ça chante, l'ishmor velason. C'est dans l'Yetzer.
Oui, c'est dans
Ah ben voilà, j'ai cherché après le chemin et j'ai pas trouvé. C'est dans quel office, ça?
C'est dans
Charré du matin. Bon, eh ben je vous remercie, parce que j'ai cherché là où il fallait pas. La preuve, c'est que je n'ai pas trouvé. Alors, l'ilmod, pour l'apprendre, ou l'amed, pour l'enseigner, l'ishmor, pour garder, velasot, et pour faire. Et on retrouve le verbe faire. Et puis, il y a une quatrième piste qui nous indique cela, c'est celle d'après laquelle il nous est enseigné que la relation entre Dieu et sa création, entre Dieu et nous, passe par quatre mondes, comme on nous le dit, le monde de l'émanation, je vous ai déjà montré ça, émanation, Atzilut, pour ceux qui savent lire en hébreu. Atzilut. Le monde de la création. Ensuite, l'émanation, c'est le niveau du projet. Dieu a le projet de faire quelque chose. Alors, il en a le projet. Ensuite, il crée le matériau nécessaire pour la réalisation de son projet. Comme l'entrepreneur qui a un plan qu'il a permis et puis qui apporte les pierres, les briques, enfin tout ce qu'il faut pour construire l'immeuble. Ça, c'est le monde de Beria. Ensuite, il y a le monde de Yetzira, le monde de la mise en forme, formation. Et tout ça pour arriver là où nous sommes, qui est le monde de Asiya, le monde de l'action. Le faire. Voilà, le monde que Dieu a créé pour faire. Et c'est ce niveau-là. Bon, stop. Il y a une chaise encore ici, il faut peut-être en chercher. La salle 3 est ouverte, alors vous pouvez... Et il y a encore une... Non, là, il y a un magnétophone.
Il y a une chaise à côté de...
Ah, il y a aussi une chaise à côté de Brigitte. Donc, l'homme lui-même, par Dieu, est situé dans le monde de l'action. Le monde du faire. Alors, la question qui se pose, mais il s'agit de faire quoi ? Ou de faire qui? Eh bien, la réponse qui nous est donnée, c'est qu'il s'agit de faire un monde où puisse séjourner la Shekhina, la présence de Dieu. Par achever le monde créé de telle sorte que puisse y résider la présence de Dieu. Dont la place est en bas. Il nous est dit, sa place est en bas, cette présence. Mais ce n'est un monde où la présence de Dieu, la présence du Créateur, ne peut séjourner que s'il peut s'y trouver en compagnie d'un quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'homme. Seulement l'homme est en cours de fabrication. Et nous voyons comme cela, aussi, je vous invite ça aussi, Adam, l'homme, homme, ça veut dire, vous savez que les lettres sont des chiffres, et donc que les mots sont des nombres, alors ça, Adam, ça vaut 44, 1, ça fait 45,
Et c'est la valeur numérique du mot ma. Quoi? Ma, ça veut dire quoi? Et nous voulons, nous avons à faire émerger celui qui est vraiment un quelqu'un, une personne vivante, et celui-là, il s'appelle Ha Adam. Avec l'article, l'homme. Avec même un article avec une majuscule, si vous voulez. Comme le ré était 5, alors nous avons 5 ans, et c'est la valeur numérique de mi. Qui? Il faut passer du quoi, de l'homme chose, à l'homme quelqu'un. Et tout le temps de l'histoire nous est donné pour parvenir à ça. Et le Messie est appelé, dans notre tradition, le fils de l'homme. Pas le fils de Dieu. La création entière est le fils de Dieu. Mais le Messie est le fils de l'homme. Et c'est en vue de parvenir à ce but que l'homme est créé. Je vous ai déjà, ceux qui, et celles qui m'ont entendu dans l'année, je vous ai déjà signalé que le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, qui reprend la description de la création de l'homme, nous dit qu'une fois que les choses sont mises en place et l'homme reçoit une âme, alors il est créé le Nefesh Chaya. Pour être une personne vivante. Et ce « pour » n'est traduit nulle part. Je ne connais de traduction qu'en français, j'en connais plusieurs, qu'elles soient rabbiniques ou pas, on a l'air d'avoir complètement oublié qu'il y avait la particule « le » qui veut dire « vers » et « pour ». À sa création, Dieu donne à l'homme ce qu'il lui faut pour devenir qui il peut être, ce « quelqu'un », et il le lance en direction de cela. Et maintenant, vas-y. La sauce pour faire l'homme. Et tout le temps de l'histoire, je le dis encore une fois, c'est le temps nécessaire pour que naisse le fils de l'homme. Il y a un moment dans cette histoire où un relais s'opère entre, par délégation des nations du monde à Israël, au peuple hébreu qui est sorti d'Égypte, très peu de temps avant, 7 semaines avant, afin que ce soit Israël qui s'occupe de faire naître ce fils de l'homme. Et les nations du monde lui ayant dit, nous, on t'aidera. Ce qui prête quelquefois à sourire. Et Dieu a accepté ce relais, c'est-à-dire que si Israël réussit à faire naître l'homme réussi, enfin l'homme, ce sera compté par Dieu au bénéfice de l'humanité tout entière. Alors si l'humanité voulait bien tenir compte de cela, elle ferait peut-être un petit peu plus attention à ne pas jouer le jeu de ceux qui veulent nous détruire. En nous concédant parcimonieusement qu'on avait peut-être quelques raisons, n'est-ce pas, par-ci, par-là, de penser que tel ennemi était en train d'avoir de noirs desseins à notre égard et qu'on a eu quelques motifs d'entreprendre une action préventive contre ce qui risquait de nous détruire. Voir les journaux de la semaine qui vient de s'écouler. Bien. Donc, tout l'itinéraire de l'histoire va se résumer dans l'itinéraire de l'histoire d'Israël, à partir du moment où cette délégation des nations du monde a été reportée sur Israël, a été donnée à Israël, remise à Israël. Et de ce point de vue-là, nous avons en particulier différents moyens pour nous aider à réaliser ce qui nous est demandé et ce à quoi nous nous sommes engagés. Et massivement, quel est le moyen qui nous est donné? Je crois qu'il doit y avoir des chaises dans la salle 3 qui est là-bas derrière. Prenez-en, ne restez pas debout. Massivement, ce qui nous est donné comme indication et comme moyen pour avancer dans la direction de l'humanisation de l'homme à travers notre histoire, et ce faisant à travers l'histoire en général, c'est ce que nous appelons en hébreu, ce que la Torah, ce que le Pentateuque appelle, les mitzvot, les commandements. Et nous voyons que les mitzvot jouent bien, ont bien à jouer ce rôle, puisqu'il y a un verset qui revient comme un leitmotiv à travers toute la Torah, où Dieu dit à Moshe, Tzav, à Moïse, Tzav et Bnei Israël. Ce qu'on vous traduit, ordonne aux enfants d'Israël, et encore une fois, on a oublié la grammaire ce faisant. Je ne sais pas pourquoi. Tzav et Bnei Israël, ça veut dire ordonne les enfants d'Israël. Ça aussi, je l'ai déjà dit en cours d'année. Et quand je dis en français, ordonne les enfants d'Israël, alors je peux entendre deux choses en français aussi. Donne-leur des ordres et mets-les en ordre. Et ce sont des ordres concernant la mise en ordre de l'être humain pour qu'il devienne enfin humain. Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas ça l'être humain. C'est consolant. Parce que si c'était ça, ce serait vraiment très triste. Très très triste. Mais c'est en cours de fabrication. Même si ça ne se voit pas à l'œil nu, il vaut mieux mettre des lunettes et alors on le voit. Et parmi ces mitzvot, il y en a qui concernent un certain nombre de fêtes qu'il est demandé à Israël de fêter au cours de son année. Elles vous sont énumérées au Lévitique, qui est le troisième livre de la Torah, au chapitre 23, et dans le livre des Nombres, qui est le quatrième livre de la Torah, au chapitre 28. Pas dès le début du chapitre 28. Faut passer un ou deux paragraphes, et puis vous tombez sur l'énumération des fêtes de l'année. Alors c'est cela que nous allons essayer maintenant de voir avec une vue d'ensemble, parce que si nous avons une vue d'ensemble, alors nous comprendrons le pourquoi du comment de la manière dont chaque fête se fait. Si vous voulez, l'année est un raccourci de l'histoire générale qu'il y a à parcourir, c'est-à-dire de l'histoire qu'Israël a à parcourir, et on peut aussi dire de l'histoire que chacun de nous a à parcourir. Ça se dit sur tous ces plans-là, et probablement sur quelques autres en plus, simultanément. Bon, est-ce que ça va jusque-là? Et pouvons-nous foncer? Ah, ceux qui sont arrivés en retard, voici des plans qu'on vous a photocopiés, mais très mal reliés. Il faut les décrocher et mettre la feuille 2 à la suite de la feuille 1 et non pas au-dessus. C'est la suite des mois de l'année. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Alors si vous avez des agrafeuses, agrafez ça chez vous et ça vous sera plus facile à comprendre que comme ça, où non seulement on les a mis l'une par-dessus l'autre, mais à l'envers. Alors, la première fête qui nous soit... Il y a quelqu'un là derrière qui en a une? Oui. Merci beaucoup. La première fête dont la Torah nous parle, eh ben, c'est le Shabbat. Dans la liste des fêtes de l'année, ça commence par le Shabbat. Et ça revient tous les 7 jours. Et pourquoi ça commence par le Shabbat? Parce que c'est de lui que tout le reste prend son sens. Je vous rappelle ce que je vous ai... vaguement esquissé tout à l'heure, lorsque Dieu a eu installé l'homme, Adam, dans le monde qu'il avait créé pour lui, avec comme mission de le remplir et de le conquérir. Vous voyez, quand nous remplissons Eretz Israël et puis que nous la conquérons, nous sommes tout à fait dans la ligne tracée par Dieu déjà à Adam le premier, Adam Harishon. Remplissez-la et conquérez-la. Pour la remplir et la conquérir. Le Mirou et Taharet v'chip choua. C'est dit dans le premier chapitre de la Genèse, si je ne me trompe. Vers le verset 28, comme ça. 28 ou 29. Je ne connais pas comme ça par cœur toutes les références de toute la Torah, rassurez-vous. Mais celle-là, on la connaît. Et une fois qu'il a placé l'homme dans ce cadre, avec mission de le parachever, ce qui, ce faisant, le parachèvera lui. Tous ceux qui s'occupent d'ergothérapie savent que pendant qu'on tisse un tissu ou que pendant qu'on fait un pot en poterie, on se fabrique soi-même, on se tisse soi-même, on se modèle soi-même. Il y a une interaction entre ce que nous faisons et ce que nous devenons. Alors c'est basé là-dessus, le premier ergothérapeute, semble-t-il, ça serait Dieu, le maître du monde. Et puis, une fois que cela a été fait, il a installé donc l'homme avec ce programme pour qu'il devienne personne vivante, l'homme avec un L majuscule, c'est-à-dire qu'il devienne capable de paix. Et nous voyons bien que c'est le grand problème. Tant que cela n'est pas résolu, on nous dit tant que le problème de ceci, le problème de cela et que ce autre problème ne sont pas résolus, il ne peut pas y avoir la paix. Ce que nous apprenons du judaïsme, c'est que c'est le contraire. Quand il y aura la paix, tout le reste sera résolu. Et ça ne se voit pas, mais c'est en cours de fabrication aussi. Bien que ça ne se voit pas non plus tellement à l'œil nu. Et lorsqu'il a eu donné ses consignes à l'homme, alors nous avons le premier paragraphe du chapitre 2 de la Genèse, où nous voyons que quand Dieu a eu terminé d'organiser tout ce qu'il avait fait, alors il l'a béni, il se l'est rendu kadosh, c'est-à-dire qu'il l'a rendu autonome par rapport à lui, il l'a mis en pilotage automatique. C'était une création que Dieu modelait et c'est devenu à ce moment-là une nature qui a l'air de marcher toute seule. Et il s'est mis, quant à lui, en Shabbat, c'est-à-dire en interruption. Il y a des chaises dans la salle 3 au fond. Il s'est mis en interruption de modification de la création. Maintenant, c'est à l'homme de faire. La saute, ce que je vous ai traduit tout à l'heure. Et tout le temps de l'histoire, c'est le temps de la nuit du Shabbat de Dieu. Vous savez que pour nous, un jour, ça commence toujours par une nuit. La lumière, ça ne peut que sortir des ténèbres, pas l'inverse. Hein? La lumière, ça vient après le jour, ça vient après la nuit, pas le contraire. Alors, nous avons l'obligation, en attestation de ce que nous savons qu'il en est ainsi, dans notre semaine de 7 jours, celle de Dieu a des jours qui comptent par milliers d'années, la nôtre, c'est 24 heures et des poussières, c'est une autre échelle, bien sûr. Nous avons, nous Israël, l'obligation, le septième jour de notre semaine humaine, de nous mettre en Shabbat et de restituer la création à son propriétaire. Parce que c'est pas évident qu'elle a un propriétaire, elle a l'air de tellement bien marcher toute seule, sauf quand elle fait des tremblements de terre au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais sinon, elle marche toute seule. On peut se croire propriétaire dans un monde pareil. L'homme n'est pas propriétaire, il est locataire. Et il est bon qu'il se rappelle de temps en temps que le propriétaire existe. Et le Shabbat, c'est fait pour ça. Pour attester ce qu'il en est ainsi. C'est un témoignage qu'il est demandé à Israël de rendre au monde, par rapport au monde, qu'il y a un créateur à la création et que nous ne sommes pas chez nous, bien que nous ne le rencontrions pas. Le rôle du monde, c'est précisément nous cacher Dieu. Olam, le monde, le temps-monde, ça vient d'une racine verbale qui est l'eralem, qui veut dire cacher. Le rôle du monde, c'est de nous cacher Dieu, parce que s'il ne nous était pas caché, où serait notre liberté? Bien sûr qu'on n'oserait faire aucune bêtise. Or, notre soumission à la volonté du Créateur n'a de valeur que si elle est faite en toute liberté. Alors Dieu nous est caché par le monde. Nous avons une possibilité de percevoir sa réalité, de percevoir sa présence qui nous vient de notre âme, de notre neshama, mais nous ne le voyons pas. Ce qui nous laisse toute liberté de dire que c'est des fantasmes ou bien que c'est une expérience réelle. Après le Shabbat, la Torah nous parle donc des fêtes de l'année. Toutes nos fêtes vont être à la fois agricoles et historiques.
en relation avec un événement historique de notre histoire. Et elles vont aussi être en préfiguration d'un événement historique à venir, qui n'est pas encore advenu. Et en tête de liste, il y a les trois fêtes de pèlerinage. Nous en avons étudié deux, Pessah, enfin étudié, survolé deux, Pessah, Pâques et Shavuot. On vous traduit la Pentecôte. Pessah, c'est le temps de la libération de l'aliénation à l'Égypte. Et c'est en vue de notre accession à la liberté que nous trouvons dans la soumission à la loi morale quand elle nous vient du Créateur de la création. Ça a l'air très curieux, je sais bien, de parler de liberté à propos d'une loi morale à laquelle on se soumet. Ça a l'air d'une contradiction dans les termes. Et ce n'est pourtant pas du tout une contradiction dans les termes, parce que il n'y a pas de liberté sans soumission à une loi. Ou bien nous choisissons la loi à laquelle nous voulons nous soumettre, ou bien nous sommes asservis à la loi des exigences indéfinies et inlassables de notre propre corps et de nos pulsions, et c'est bien la tyrannie la plus forte qui puisse se trouver, et c'est pas du tout ça la liberté. C'est le contraire de la liberté. Donc la libération n'a de sens, nous l'avons vu, que si elle est là pour nous permettre d'aller au-devant de la liberté. Sinon, en tant que seule libération, ça n'a pas de sens. Ça, ce serait l'anarchie, ce ne serait pas la libération. Et encore moins la liberté. Shavuot, c'est la dernière fête que nous avons fêtée, il y a donc 8 jours. C'est la fête du moment où Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï, aux oreilles de tout le peuple. J'allais dire aux yeux de tout le peuple, parce que le texte nous dit que c'était une expérience tellement violente que le peuple voyait les voix, V-O-X, c'est vous dire, et qu'ils en ont eu un tel traumatisme qu'ils ont fait un saut en arrière tous, ils sont reculés d'une grande distance, et puis ils ont crié à Moïse, « Prends la commission !» de la part de Dieu, et puis tu nous la feras parce que nous, on va mourir, on ne peut pas entendre une chose pareille. C'était le but de l'opération. Habiliter Moïse comme transmetteur de oral de la loi venant de Dieu, dont il a dû écrire une petite partie qui est la Torah écrite, mais qui n'est qu'une petite partie de l'ensemble de ce qu'oralement il a reçu comme enseignement et qu'oralement il a transmis à Israël, qui a été transmise de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève, jusqu'à nous aujourd'hui. Selon des règles très strictes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fantaisie dans cette transmission. Pour qu'il n'y ait seulement qu'une adaptation de langage à la manière de penser de chaque génération qui évolue par rapport à la génération précédente. Alors à Pessah, nous savons que nous mangeons de la matzah, du pain azim, entre autres, que nous n'avons pas le droit de manger, ni même de voir chez nous, du levain. Et à Shavuot, il y a très peu de rites indiqués pour Shavuot. Qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'il s'agit de faire? Eh bien, on va étudier toute la nuit de Shavuot. Il y a eu dans cette maison une veillée d'études, en particulier, toute la nuit. Ce n'est pas une longue nuit, du reste. Et puis, je vous ai dit, on a l'habitude de manger des laitages au repas de midi de Shavuot, et puis on apporte des feuillages et des fleurs partout dans les synagogues et dans les maisons. Et ça s'appelle la fête des prémices, Shavuot, des primeurs, si vous préférez. Ensuite, il va se passer beaucoup de temps, parce que puisque nous vivons dans la nuit du septième jour de la semaine de Dieu, il s'agirait de passer au huitième jour, de sortir de ce rythme 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Nous voudrions arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat 8.
C'est que les jours de la semaine n'ont pas de nom en hébreu. Ils n'ont que des numéros d'ordre. Et nous sommes en tout le temps en espoir de trouver ce huitième jour. Quand un fils naît dans nos familles, son huitième jour, nous faisons sa circoncision. Parce que peut-être il va être celui qui va engendrer l'homme du huitième jour. Vous y êtes ? Et à la sortie d'Égypte, ils ont traversé la mer la nuit du septième jour. Est-ce que le lendemain, ça pourrait pas être le huitième jour ? Ça aurait bien pu, ma foi. Mais il est arrivé un malheur. À peine de l'autre côté de la mer, ils ont commencé à être paniqués complètement et à regretter d'être partis et à avoir un œil tourné vers l'avant et un œil tourné vers l'arrière. Il y a eu des traînards qui ne savaient pas s'il fallait aller en avant ou retourner en Égypte. Et c'est à ce moment-là que le texte relisait l'Exode, que le texte de l'Exode nous dit que le peuple d'Amalek nous a attaqués par derrière, a attaqué nos traînards, et qu'on est venu dire à Moshe qu'il y avait beaucoup d'Hébreux en train d'être massacrés. Et Moshe a prié en levant les mains vers Dieu pour montrer au peuple ce qu'il fallait faire. Et tant qu'il avait les mains levées, nous dit le texte, Amalek n'avait pas le dessus sur les Hébreux. Mais dès qu'il baissait les bras, dès qu'il baissait les mains, Amalek avait le dessus sur les Hébreux. Et relisez le texte, vous verrez ce qui s'est passé. On lui a tenu les bras levés parce que c'est fatigant de rester les bras levés. Et Dieu a dit... Tu effaceras le souvenir d'Amalek. N'oublie pas d'effacer le souvenir d'Amalek. Parce qu'il a porté atteinte au trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est de la Kabbale ou quoi ? Bien sûr que c'est de la Kabbale. Le trône de Dieu, le support de la présence de Dieu dans le monde, eh bien c'est ça Israël. Et celui qui s'attaque à Israël, et encore plus s'il s'attaque à Israël sortant d'Égypte, après les 10 plaies d'Égypte, après que la mer se soit ouverte pour les laisser passer, et se soit refermée pour engloutir l'armée d'Égypte, l'armée d'élite d'Égypte, voilà qu'un peuple a l'audace de s'attaquer aux traînards d'Israël, mais ça veut dire qu'il s'attaque à Dieu. Et chaque fois que dans l'histoire, un peuple a voulu effacer Israël de la surface du monde, comment ça se dit en allemand ? Rendre la terre Juden. Comment on dit ça ? Reich Juden. Nettoyer de juifs. C'est Amalek ? C'est ça. C'est Amalek au travail. C'est arrivé au moment de l'inquisition d'Égypte, c'est arrivé dans nos générations avec Hitler. Mais ça n'arrive que quand il y a des traînards qui regardent en arrière. C'est-à-dire des gens qui doutent parmi nous de la valeur qu'il y a et de l'importance qu'il y a à être Israël et à aller de l'avant vers le monde qui vient avec cette étape indispensable de l'avènement du Fils de l'homme réussi enfin, de telle sorte que la paix puisse régner dans le monde. Et nous voyons que le mot de Amalek a la même valeur numérique, là aussi, que le mot safek, qui veut dire le doute. Amalek, gematria, safek. La même valeur numérique. Alors, ça n'a pas pu être le huitième jour, le lendemain du septième jour. Alors, puisque ça n'a pas pu être le huitième jour, peut-être que si on comptait 7 fois 7 jours, une semaine de semaine, ça pourrait marcher. Peut-être que pour un individu, ça marche 6 jours et 1/7, ou 7 jours et peut-être 1/8. Mais à l'échelle d'un peuple, c'est une autre échelle, il faut peut-être 1 semaine, 2 semaines, 49 jours. Alors ils ont fait un itinéraire de 49 jours en direction du Sinaï, et c'est le 50e, c'est-à-dire ce fameux 8e jour qu'on attend. D'accord ? Le jour qui suit, le 50e que Dieu a parlé à Moïse aux yeux de tout le peuple. Et peut-être qu'on y était arrivé. On nous dit même qu'on y était arrivé. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient et personne ne mourait.
Moïse a été appelé par Dieu pour recevoir, là il n'avait reçu que le décalogue, c'est-à-dire les principes de la vie morale. Il fallait recevoir l'ensemble de la manière de vivre dans la vie de tous les jours pour que ces principes s'incarnent, là sortent, pour faire que la vie devienne morale. C'est pas le tout d'avoir des principes moraux. Ça nous fait une belle jambe d'avoir écrit « Liberté, égalité, fraternité » sur les frontons de toutes les mairies et toutes les écoles. Est-ce qu'on réalise la fraternité, l'égalité, etc. La liberté, l'égalité, la fraternité. Ça, c'est ce qui est important. Alors, l'ensemble des mitzvot, c'est fait pour que la vie, tout court, nous transforme notre corps de telle sorte qu'il s'assouplit et devienne capable d'obéir aux principes moraux que lui dit sa neshama, son âme. Parce que l'âme, elle est morale. C'est le corps qui n'a pas envie d'être moral. Alors il faut lui donner une structure qui le rende accessible à la moralité. Il y a 613 commandements et il y a 613 lettres pour écrire le décalogue. Vous voyez ? On retrouve ce que je suis en train de vous dire. Alors Moshe est monté en disant aux Hébreux, je redescends dans 40 jours. Il est redescendu au bout de 40 jours, mais ça faisait un jour de plus que les Hébreux n'avaient compté, parce qu'ils ont compté le jour de son départ. Mais il y avait la nuit avant, c'était pas un jour complet, ça comptait pas. Alors, ils ont compté un jour, ils sont arrivés à 40, un jour trop tôt, et voilà, Moïse n'était pas là. Alors, il a été dit, ben, puisque Moïse n'est plus là, faisons-nous un dieu à sa place et qu'il nous ramène en Égypte. Vous voyez, tout le temps, on est en train de regarder en arrière. Et ils ont fait le veau d'or. Et patatras, c'était remis le compteur à zéro et on avait de nouveau plus atteint le fameux huitième jour. Alors, il y a peut-être une autre stratégie pour y arriver. Peut-être que si on compte 7 mois à partir de la sortie d'Égypte, ça pourrait marcher. Alors, comptez les mois sur les pages que je vous ai données. En haut, il y a les mois de l'année. Nissan, Yar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Le 7e mois, c'est Tishri. Est-ce qu'en Tishri, on va trouver le 8e jour ? Ça va être la question en suspens à propos de la fête de Soukhot, qui est la seule fête qui, dans la Torah, dure 8 jours. Pessah, c'est 7 jours dans la Torah. Mais avant, il nous faut traverser les Yamim Noraim, les jours impressionnants, qui vont de Rosh Hashanah, la tête de l'année, à Yom Kippour, le jour de l'expiation, des expiations. Alors, qu'est-ce que sont Rosh Hashanah et Yom Kippour ? Je vous en ai parlé à mon dernier cours. Ce sont 10 jours où nous vivons à rideau baissé, comme les commerçants qui baissent le rideau de fer de leur magasin et qui mettent dessus un écriteau fermé pour cause d'inventaire. Effectivement, si vous écrivez le mot « Shana », je vous ai montré ça la dernière fois, il y a 15 jours de ça, vous vous apercevez d'une anomalie. Shana. C'est 5 plus 50 plus 300. 350. Qu'est-ce qui cloche ? 355, pardon. Et c'est 5. 355. Il y a quelqu'un qui dirait quelque chose qui ne va pas. Parce que le mot Shana, il vaut 355 l'année. Mais elle a 365 jours, tout le monde le sait. Et des poussières, bien sûr. Alors, ce sont ces 10 jours-là qui sont hors du compte. Ils sont à rideau fermé pour faire le bilan. Et pour nous remettre en ordre, et pour permettre à Dieu de décider entre les mains de qui, il va remettre la suite des événements. Ce que nous exprimons en disant
et tu es en train d'inscrire ceux qui vivront dans le livre de la vie et ceux qui mourront dans le livre de la mort. Hein, c'est une phrase qui revient tout le temps dans la prière de tout le long de la journée de Rosh Hashanah et aussi de Kippour. Rosh Hashanah, c'est un temps de jugement où Dieu nous juge avec amour. Et Kippour, c'est un jour d'amour où Dieu nous aime avec justice. C'est un jour où, quand le temple existait, c'était le seul jour de l'année où au midi...